Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelle est notre vocation céleste. Et le thème aujourd'hui sera la supériorité de la nouvelle position. C'est l'étude numéro 9. La supériorité de la nouvelle position. Nous nous concentrerons maintenant sur l'un des aspects de la grande transition, la supériorité de l'Israël céleste sur l'Israël terrestre. L'auteur de cette lettre s'est entièrement donné à la supériorité immense de ce qui s'était fait avec cette nouvelle dispensation. Il semble s'être dit en lui-même, « Le moment est arrivé de faire connaître à ce peuple combien supérieur est ce qui s'est produit avec cette dispensation. » Ce mouvement final de Dieu dans l'histoire de ce monde est plus grand que tout ce qui s'était fait auparavant. Il se mit donc à montrer cela au peuple de son temps. Mais l'intention de Dieu était plus vaste que cela. Sa pensée embrassait son peuple de tous les temps. Personne ne sait exactement qui est l'auteur de cette lettre. Plusieurs noms ont été mentionnés. Les uns ont été certains du nom de l'auteur, puis d'autres sont venus bouleverser leur certitude. Les uns ont été sûrs que l'apôtre Paul l'avait écrite, tandis que d'autres ont presque prouvé le contraire. Les uns ont pensé que Apollos l'avait écrite, car l'on a dit que Apollos était un homme très versé dans les Écritures, selon Actes chapitre 18, verset 24, et il fallait certainement un tel homme pour écrire ce document. Quant à l'apôtre Paul, il était naturellement un maître parfait du judaïsme et du christianisme. Et il était nécessaire d'être un homme semblable à lui pour écrire ce livre. Peut-être le Seigneur n'a-t-il jamais pensé qu'il soit tellement important de mettre un nom d'homme sur cette lettre, mais d'en attribuer toute la valeur à Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Nous touchons là à une base très ancienne et même épuisée en rappelant la place qu'occupe le mot meilleur dans cette lettre. Il s'y trouve plus souvent que dans tout le reste du Nouveau Testament. Ce mot se trouve 13 fois dans la lettre et toujours avec une pensée très précieuse. Nous mentionnerons simplement les références. Prenez d'abord chapitre 1, verset 4, où il est dit « supérieur aux anges », ou si vous voulez, « meilleur que les anges ». C'est une place très haute pour commencer. Et s'il vous plaît, écoutez attentivement la suite. Chapitre 6, verset 9. Nous sommes persuadés en ce qui vous concerne de choses meilleures. Chapitre 7, verset 19. Une meilleure espérance. Chapitre 7, verset 22. Une alliance meilleure. Chapitre 8, verset 6, une meilleure alliance et de meilleures promesses. Chapitre 9, verset 23, de meilleurs sacrifices. Chapitre 10, verset 34, des biens meilleure. Chapitre 11, verset 16, une patrie meilleure. Chapitre 11, verset 35, une résurrection meilleure. Chapitre 11, verset 40, quelque chose de meilleur. Et nous pouvons ajouter à tout cela, chapitre 12, verset 24, le sang de l'aspersion qui proclame de meilleures choses que celui d'Abel. Au chapitre 1, 4 et 8, nous avons les termes plus éminents et plus excellents. Et au chapitre 1, verset 4, attention, je me suis trompé. D'abord au chapitre 1, et non pas les chapitres 4 et 8, mais au chapitre 1, verset 4 et le verset 8. Là, nous avons les termes plus éminents et plus excellents. Et au chapitre 1, verset 4, et chapitre 3, verset 3, et chapitre 10, verset 25, se trouvent les termes d'autant supérieur et d'autant plus. Je dois évidemment faire attention d'essayer de ne jamais me tromper dans les indications que je vous donne afin que vous puissiez trouver facilement, et si je fais une erreur, je vous demande pardon. Nul n'est parfait dans le sens d'être infaillible. Et je ne veux pas m'excuser de mon très grand âge. J'en ai pas le droit. Ce n'est pas une excuse. Chers amis, ce mot est donc une clé, un Schlüssel, pour la lettre. Tout ce que nous avons ici est meilleur que ce qui avait existé auparavant. Vorher. Et nous pouvons donc revenir à la phrase qui est notre clé pour ce message. Frères saints, compagnons ou disciples d'une vocation céleste, appelés à quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce qui avait précédé dans l'histoire de ce monde. Souvenons-nous pourquoi cette lettre avait été écrite. En premier lieu, elle a été écrite pour sauver ces chrétiens d'un déclin spirituel ou d'un arrêt spirituel. Pour diverses raisons, ils étaient tentés de se retirer. Nous nous souviendrons que ces mots paraissent dans un avertissement. S'ils se retirent le Seigneur, alors mon âme ne prend point plaisir en lui. Hébreux chapitre 10, verset 38, selon la version allemande, mais ça doit être absolument identique chez vous. C'est une chose terrible que d'arriver à une place où le Seigneur n'a plus de plaisir en nous, de perdre le plaisir du Seigneur. Ô Seigneur, que ça ne m'arrive jamais, je t'en supplie. Et c'était pour empêcher ces chrétiens d'arriver à une telle position que cette lettre a été écrite. Quelques-uns de ces chrétiens étaient enclins à s'arrêter et à ne plus avancer, de sorte que leur vie spirituelle aurait été arrêtée, et qu'ils ne marcheraient plus et ne grandiraient plus. Ils seraient devenus des chrétiens trop tranquilles. Ce qui a été l'est encore aujourd'hui. L'avenir ne les gouvernait en rien. Cette lettre fut donc écrite pour les sauver d'un recul ou d'un arrêt. Je répète, Cette lettre a donc été écrite pour les sauver d'un recul ou d'un arrêt. Nous avons cependant déjà dit qu'il y avait encore une autre raison. C'était de soutenir ces chrétiens dans un temps de grande détresse, tout proche. Cette lettre a évidemment été écrite peu avant la destruction de Jérusalem. L'auteur en avait peut-être déjà vu les signes, mais qu'il les ait vus ou non, le Saint-Esprit connaissait ce qui allait arriver. Il savait qu'un temps de dure épreuve allait éprouver ces chrétiens et allait même ébranler tout ce en quoi ils s'étaient confiés sur cette terre. Et il inspira cet auteur qui a donc écrit cette lettre. Elle devait être une force pour eux, et elle devait aussi être un salut en temps de détresse. Et la méthode qu'il a employée pour leur apporter de l'aide, cela a été de leur présenter tout à nouveau la grandeur du Seigneur Jésus, la grandeur de la vocation céleste, et de leur rappeler combien il est grand d'être des compagnons, des disciples de Jésus-Christ et de la vocation céleste. L'auteur chercha donc à présenter le Seigneur Jésus dans sa supériorité sur tous ceux qu'il avait précédés. Mais en le faisant, il rappela encore une autre chose, et c'est une question très intéressante. Il dit, « Durant tous les âges du passé, vécurent des hommes qui rencontrèrent de grandes difficultés, beaucoup de découragements et d'épreuves, et là, il a mentionné Abraham. En effet, Abraham avait eu vraiment une vie difficile. Il éprouva la difficulté de la promesse différée. Les promesses de Dieu ne semblaient pas se réaliser. Dieu resta longtemps à accomplir sa parole. Et nous connaissons tous quelque chose de cette même difficulté. Nous avons hâte. Et Dieu ne se hâte pas. Il semble avoir tout le temps à sa disposition. Nous sommes donc troublés. Oh, si le Seigneur voulait se hâter. Et je pense que nos prières sont souvent marquées par une parole. Seigneur, veuille le faire, s'il te plaît. Si un homme a connu le besoin d'être patient, croyez-moi, cela a été Abraham. Abraham rencontra cette difficulté. Dieu tarde si longtemps l'accomplissement de ses promesses, et Abraham faillit dans cette épreuve. À une occasion, il quitta le pays de la promesse et alla en Égypte, où il se trouva dans une détresse encore plus grande. Il a dû dire un mensonge pour arriver à sortir de sa détresse. Et cette question fut une réelle épreuve pour Abraham. Alors qu'ils étaient âgés, tous les deux, et que le Seigneur leur a dit qu'ils auraient un fils, Sarah, qui était dans sa tente, elle a entendu cela et elle a ri en elle-même, selon la Genèse, chapitre 18, verset 12. Et l'Éternel en fut évidemment peiné, et Abraham a dû reprendre Sarah. Nous pouvons excuser Sarah Le chemin par lequel l'Éternel conduisait son mari était dur pour elle, et elle était incapable de voir ce qu'il voyait ou de ressentir ce qu'il ressentait. Peut-être pour cette raison-là, Abraham éprouva-t-il une certaine solitude spirituelle dans sa vie. Et en ce qui concerne ce jeune homme appelé Lot, qui lui causait tellement de difficultés, Lot ne partageait certainement pas la vision d'Abraham. Sa vision était entièrement sur cette terre. Ses ambitions étaient toutes dans le présent et nous connaissons bien son histoire. Nous savons quelle écharde il était dans le côté d'Abraham. Nous pourrions ajouter d'autres détails à cette histoire assez pénible. La vie d'Abraham n'a pas été facile. Et cependant, nous le savons, le Nouveau Testament dit que Abraham se réjouissait. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi s'est-il réjoui dans la tribulation? Jésus lui-même nous le dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Saint Jean chapitre 8, verset 56. Donc, d'une manière ou d'une autre, Abraham avait vu le Seigneur Jésus, il avait vu le jour du Seigneur Jésus, et cela l'a soutenu dans toutes ses difficultés. Nous le savons, cette lettre aux Hébreux nous parle davantage encore de ce que avait vu Abraham. Il avait vu en esprit une contrée céleste et il l'attendait. Il avait vu la cité qui a de solides fondations et dont Dieu est l'architecte et le fondateur, selon Hébreux chapitre 11, verset 10. Abraham avait donc vu le jour de Jésus-Christ. Nous, nous souvenons que l'auteur nous dit « Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste » Hébreux chapitre 12, verset 22. Abraham avait vu cela et ayant vu le Seigneur Jésus, il a pu avancer et se réjouir durant une longue vie d'épreuves. Qu'en est-il de Moïse? Nous pourrions rappeler un long récit des épreuves de Moïse. Il a dû porter un fardeau très lourd et il arriva un moment où il a perdu presque courage. Il dit à l'Éternel, « Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Le livre des Nombres, chapitre 11, verset 14. Moïse dut bien souvent revenir au Seigneur de cette manière en lui disant, « Tu m'as demandé de faire une chose trop grande pour moi. » Il y a eu beaucoup d'épreuves durant 40 années, très fatigantes. Mais nous trouvons ici ces mots. Il a tenu ferme comme s'il avait eu vu celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Qui était celui que voyait Moïse? Remarquons ce que dit cette lettre aux Hébreux. Lorsque Moïse était dans le palais de Pharaon et qu'il a vu ses propres frères persécutés, il a décidé de prendre sa place avec eux. Et cette lettre nous dit, « Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu. » Et nous trouvons maintenant une phrase merveilleuse. ils considéraient l'opprobre de Christ comme une richesse encore plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux, chapitre 11, versets 25 et 26. L'opprobre de Christ. Qu'est-ce que Moïse connaissait de Christ? Il devait l'avoir vu d'une manière ou de l'autre, et il avait vu que ce peuple hébreu était appelé en relation avec lui, de sorte que il a tenu ferme comme s'il avait vu celui qui est invisible. Il y a donc ici un point auquel notre esprit doit s'ajuster. Peut-être avons-nous l'idée que lorsque Jésus entra dans ce monde, c'était le début de sa vie, mais la parole de Dieu nous montre très clairement que Jésus-Christ était présent au jour d'Abraham et de Moïse. La sainte parole nous dit en vérité qu'il était présent dans la création même du monde. Toutes choses ont été faites par lui, nous est-il dit dans Saint Jean, chapitre 1, verset 3. Il était donc là, toujours. Il était celui qui apparut à différentes reprises et on ne le reconnaissait pas. Il est apparu à Abraham, à Moïse, à Josué, à Gédéon. Oui, ce même Christ était donc là, toujours actif. Il ne commença pas son existence lorsqu'il est né à Bethléem. Ce fut alors qu'il entra dans ce monde sous une forme humaine. Pensez-vous que ce soit exagéré? Reprenons donc notre lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chapitre 13, verset 8. Nous avons laissé de côté un seul petit mot. Jésus-Christ est le même. Il est hier, il est aujourd'hui et il est demain. Il n'y a point de hier, d'aujourd'hui, ni de demain pour Jésus. Hier était le jour de l'ancienne dispensation. Lorsque cet auteur a écrit cette lettre, il vivait alors aujourd'hui dans la nouvelle dispensation qui venait maintenant de commencer. Aujourd'hui est la période qui s'écoule entre le moment où Christ est remonté au ciel et celui de son retour. Nous avons déjà vu la phrase citée trois fois dans cette lettre et elle est reportée de hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez surtout pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. Hébreux 3, versets 7 et 8. Cela, c'est donc un message pour notre dispensation. Demain, ce sera toujours. Et il sera le même Jésus éternellement. L'auteur de cette lettre dit donc ceci. Jésus-Christ était là dans le hier et il est le même Jésus-Christ que nous connaissons aujourd'hui et il sera absolument le même Jésus-Christ à toujours. Avons-nous remarqué combien se trouve de citations de l'Ancien Testament dans le premier chapitre de cette lettre? Nous ne pouvons pas nous arrêter à les considérer, mais l'Ancien Testament est souvent rappelé ici et les citations concernent Christ. Il est donc, avant tout, très clair. qu'il était déjà dans l'Ancien Testament. L'on parlait de lui et il était présent dans l'esprit des auteurs de l'Ancien Testament. Il y a des citations de David. Jésus-Christ occupait beaucoup la pensée de David. Les paroles telles que « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ont été écrites premièrement par lui. Psaume chapitre 2 verset 7. Et il y a beaucoup d'exemples pareils à celui-là. Oui, il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament au début de cette lettre, ce qui montre simplement que Jésus-Christ était présent alors. Et ce Jésus-Christ a passé de hier à aujourd'hui. Cet auteur dit simplement, ce Jésus-Christ des prophètes et des hommes d'autrefois, il est celui dont je vous écris aujourd'hui. Le premier chapitre de la lettre reprend simplement ici tout ce qui est de Christ pour le reporter ici dans le présent. Et c'est absolument le même Jésus-Christ. Mes chers amis, Jésus-Christ est donc le commencement de notre vie. Ne sommes-nous pas heureux de pouvoir dire « C'est le Seigneur qui m'a trouvé, c'est le Seigneur qui a mis sa main sur moi. » Ce qu'il a dit lui-même est toujours vrai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Saint Jean chapitre 15, verset 16. Donc Jésus a été l'auteur de notre foi et il est dit qu'il en est le consommateur et il l'accomplira. Voyez-vous, lorsque nous arriverons au ciel, nous serons remplis d'étonnement d'y être arrivés. Nous nous regarderons les uns les autres en disant « Oui ». Eh bien, maintenant, nous sommes ici. C'est une histoire merveilleuse. Comment sommes-nous arrivés ici? Nous ne le savons pas. Nous avions pensé tant de fois que nous ne pourrions jamais y arriver. Nous avions abandonné tout espoir. Mais nous sommes ici, et ce sera simplement parce que Jésus est le consommateur. Croyez donc cela, chers amis, de tout notre et de tout votre cœur. Au jour de notre désespoir et de nos difficultés, regardons simplement à Jésus. Il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Saint Jean chapitre 12, verset 26. Alors même qu'il faudrait un millier de miracles, il agira pour nous amener là. Croyons-le, saisissons-nous de cette assurance de nos deux mains et confions-nous en lui qui nous conduit dans la gloire, car telle est l'une des promesses de cette lettre. Voulant amener beaucoup de fils à la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 10. Cela signifie, vous qui m'écoutez et moi. Sur www, donc trois fois, Bible explique en un seul mot.ch, il y a un complément de l'étude de la lettre de Hébreux très, très intéressant. Chers amis, nous arriverons maintenant à la suprême question de la lettre et par conséquent à la question suprême de notre dispensation, c'est-à-dire combien tout ce qui a été apporté par le Seigneur Jésus est infiniment plus élevé et plus complet que tout ce qui avait existé dans les temps anciens. Nous verrons dès le commencement de la lettre que nous sommes dans la dispensation du Fils de Dieu et sa dispensation dans une nouvelle manifestation personnelle. Nous savons qu'il avait été présent dans la dispensation précédente et il apparaissait aux hommes sous d'autres formes. Mais cette lettre, elle nous dit qu'il est venu sous une nouvelle forme. Et elle commence donc par la présence manifeste du Fils de Dieu. Le premier verset nous dit que dans l'ancienne dispensation, les hommes avaient rencontré Dieu à plusieurs reprises et de diverses manières. Et Dieu rencontrait les hommes, et les hommes rencontraient Dieu dans les prophètes. Or, les prophètes étaient les serviteurs de Dieu, et les hommes rencontraient Dieu par ses serviteurs. Dans cette dispensation, ils le rencontrent maintenant en son Fils personnellement. Il nous est dit que Dieu était en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Ainsi, le Fils implique que le Père et le Fils de Dieu implique que Dieu. Nous rencontrons donc Dieu en son Fils et non plus dans ses serviteurs. Cela atteint donc la plénitude absolue dans cette question de la révélation divine, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, le Fils, toute sa plénitude. Colossiens chapitre 1 verset 19. Rien ne peut y être ajouté. Ne recevons pas cela comme de simples paroles. Comprenons que dans chaque fragment se trouve cette vérité dans la dispensation dans laquelle vous et moi, nous vivons. Dieu est venu à nous dans toute sa plénitude. Rien ne saurait y être ajouté. En son Fils, nous avons la plénitude absolue de Dieu, et c'est de cette plénitude qu'il nous parle en son Fils. Dieu n'a qu'un seul Fils dans ce sens, c'est le Fils unique de Dieu, ce qui signifie que personne ne viendra après lui. C'est pourquoi la dernière parole de Dieu est en son Fils. Le Fils nous apporte la plénitude et la finalité de Dieu. C'est cela qui donne à toute cette lettre sa solennité. Elle dit, « Si vous n'entendez pas la voix du Fils, il n'y aura plus aucune autre voix pour vous. » Dieu ne parlera plus jamais par une autre voix. Dieu a parlé en son Fils et il ne parlera plus jamais d'aucune autre manière. C'est pourquoi cette lettre contient ces mots d'avertissement et d'exhortation, parce que c'est la plénitude et que c'est la fin, veillez à être très attentifs. Entrez en contact avec le Seigneur Jésus est infiniment plus grand que d'entrer en contact avec un enseignement, car c'est entrer en contact avec une personne vivante et active. c'est avec Dieu que nous entrons en contact. C'est une chose glorieuse que d'entrer en contact avec Dieu en et par Jésus-Christ. Ainsi, chers amis, dans les Hébreux, le Fils est introduit, présenté, et ensuite il est dépeint. Et nous avons donc une description merveilleuse. Mais nous demandons, qui est ce Fils? Car son nom n'est pas mentionné avant que nous le trouvions au verset 9e du 9e chapitre. Or jusque-là, il est le Dieu sans nom. Qui est ce Fils? Oui, cela nous est dit pour la première fois dans ce verset. Nous le voyons, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, Jésus. Peut-être cela paraît-il très simple de dire que Jésus est ce Fils, que ce Fils est Jésus, mais il est possible que nous ne reconnaissions pas un certain détail à ce sujet. Il est très rare, après sa résurrection et son ascension, qu'il soit appelé encore Jésus. Car après être remonté au ciel, il est maintenant appelé habituellement Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Il a reçu son titre tout entier. Et ça, lorsqu'il a été remonté sur le trône dans les cieux. De sorte que si l'on revient en arrière, en employant simplement le nom de Jésus, nous savons que c'est afin de rappeler son humiliation et le but de cette humiliation. Ce nom est donc lié à son œuvre accomplie sur la terre pour notre rédemption. Nous considérons donc encore ce passage et nous le voyons, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus était donc le nom de celui qui a subi la mort et qui a goûté la mort pour chaque homme, pour chaque femme, et c'est lui le Fils qui est introduit ici. Il est identifié par son nom, Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. La chose suivante est la position et la fonction du Fils. Au second verset du premier chapitre de cette lettre, nous lisons « Dieu nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils, celui qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait le monde. » Ce Fils qui est connu sous le nom de Jésus et par la décision de Dieu, il est maintenant héritier de toutes choses. Toutes choses doivent donc être à lui par le droit de la décision de Dieu. Ne nous lassons pas si nous nous arrêtons tellement sur cela. C'est l'une des premières choses qui nous soit dite de la dispensation dans laquelle vous et moi nous vivons. Il ne semble pas qu'il en soit ainsi, car nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont et soient soumises. Hébreux chapitre 2, verset 8. Mais il nous est dit avec assurance qu'il est héritier de toutes choses, de sorte que tout doit donc venir à lui à la fin. Dieu va réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Alors, si nous employons un langage humain, nous pourrions dire ceci. Il y a eu quelque part dans l'éternité passée un moment où Dieu le Père a convoqué une conférence afin de discuter de l'avenir de tout ce qui allait être créé. Le Père dit alors, « Je fais de mon Fils l'héritier de toutes choses. Je le désigne comme étant mon héritier et j'ordonne que toutes choses à la fin soient en sa possession. » Or, nous sommes en la présence du Dieu tout-puissant et éternel. Et lorsqu'il prend une décision comme celle-là, rien ne saurait l'entraver. Celui qu'il a établi héritier de toutes choses, mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il s'est tourné vers le Fils, c'est naturellement notre façon de parler, et il lui a dit, « Maintenant, mon Fils adoré, je vais me servir de toi comme de l'agent par lequel je fais toutes choses, par lesquelles il a fait le monde. » Ce Fils, que nous connaissons comme notre Sauveur et notre Seigneur, a donc été l'agent de Dieu dans la création du monde. Il nous est dit ensuite une troisième chose, qui est très difficile à comprendre. Ce Fils soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Les choses ne s'effondrent pas parce qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Et les choses ne s'effondreront pas jusqu'à ce qu'il l'ordonne lui. Si tout cela est vrai, c'est quelque chose de très merveilleux pour nous. Nous entendons parler beaucoup de la désintégration de l'univers et de la destruction de ce monde. Il y en a beaucoup qui sont très effrayés à cet égard. Pensons à la Corée du Nord. Si ce qui nous est dit ici est vrai, l'univers et le monde ne pourront jamais s'effondrer avant que Jésus ne l'ordonne. Ce n'est que lorsque il dira « Maintenant, que cela soit, que cela se fera. » Il soutient donc toutes choses par la parole de sa puissance. Ne pouvons-nous pas par aller jusqu'à dire que cela devait être un réconfort personnel pour nous. Il semble quelquefois que notre propre petit monde va s'effondrer et que nous sommes arrivés au bout. Oui, cela s'applique ici également. Il soutiendra toute chose jusqu'à ce qu'il décide qu'elle doivent s'effondrer. Il est possible que un pays du Nord puisse soudainement détruire l'Amérique, par exemple, les États-Unis. Tout est possible. Il y a tellement de princes de démons qui sont à l'œuvre à la fin de cette dispensation, et comment? Voyez-vous, nous avons ici le Fils identifié et décrit. Ensuite, nous entrons dans le contenu plus vaste de la lettre, la grandeur du Fils en comparaison avec d'autres grandes choses et d'autres grands hommes. Il est dit au verset 4 du premier chapitre, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges. » Les anges sont les êtres les plus élevés et les plus proches de Dieu et du Fils. Oui, il nous est souvent parlé des anges dans la Sainte Bible. L'apôtre Pierre dit qu'ils sont grands en force et en puissance. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Dans le livre des Juges, il nous est dit qu'un ange avait une apparence très imposante et la femme qui l'a vu fut fort effrayée jusqu'à craindre la mort. Et elle a dit, « Un homme de Dieu est venu à moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. » Juges, chapitre 13, verset 6. Les anges avaient donc une connaissance très étendue. Et Jésus a dit, « Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne n'en sait rien, pas même les anges du ciel. » Matthieu 24, verset 36. Si quelqu'un devrait savoir, ce sont les anges, car leur connaissance est si parfaite et si grande. Mais les anges eux-mêmes ne savent pas cela. Les anges ont donc une vaste connaissance, mais pas totale. Il y a un nombre immense d'anges. Il y en avait des myriades de myriades, des milliers de milliers, nous est-il dit dans Die Offenbarung, Apocalypse chapitre 5, verset 11. Ils sont en un vaste nombre. Les anges sont donc tout près du trône de Dieu et ils ont accès en sa présence. Et cela ressort dans l'une des plus belles vérités que Jésus ait dites à l'égard des petits enfants. Il a dit, « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu chapitre 18, verset 10. Nous ne comprenons naturellement pas cela, car c'est une chose très mystérieuse. Mais Jésus dit que les anges ont accès au trône de Dieu lui-même. Il n'y en a qu'un seul qui soit encore plus près. L'œuvre des anges est très variée. Regardons encore cette lettre aux Hébreux, car nous nous tenons très près d'elle. Il est dit, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds pour te servir de marchepied. » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par lui pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Et quelle œuvre ils ont à accomplir? Pensons à tous les héritiers du salut dans le monde tout entier, dans toutes les générations. Et il nous est dit ici que les anges ont à veiller sur eux et même sur leurs intérêts. Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut. Nous ne les voyons naturellement pas, mais si la Sainte Bible est vraie, les anges sont là et sont des êtres très occupés. Ils ont un service très grand et très précieux. Tous les besoins diffèrent de ces héritiers du salut et sont sous leur responsabilité. Les anges sont donc d'un ordre très élevé. Mais il nous est dit dans cette lettre aux Hébreux, le Fils est encore beaucoup plus grand que les anges. Le Fils est beaucoup plus grand que les anges. C'est ce que nous dit ce verset quatrième du premier chapitre. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom encore plus éminent que le leur. Si nous lisons tout ce que nous dit la Sainte Bible au sujet des anges, nous aurons une révélation merveilleuse et nous arrivons ensuite à ce petit fragment où il nous est dit que le Fils qui est Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges. C'est là que commence sa supériorité. Nous sommes donc entrés dans cette dispensation, la supériorité de Jésus sur tous les anges. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment pensé au ministère des anges, mais ils sont évidemment très occupés pour chacun de nous. Peut-être avons-nous été sauvés de beaucoup de choses parce qu'ils ont veillé très fidèlement sur nous. S'il vous plaît, si vous possédez l'Internet, vous pouvez écouter toute une série d'études sur le ciel et les anges, et je vous recommande surtout le témoignage de Marietta. Vous pouvez trouver cela sur 3xw.ch. Nous commençons donc par les anges, pour continuer ensuite par Moïse. Et nous remarquons qu'il est dit au chapitre 3e, « C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez bien l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Retenons bien ces mots. Une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Car le constructeur d'une maison est plus admiré que la maison même. Il n'y a pas de maison, en effet, qui n'ait été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu le Père. Et quant à Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison comme un serviteur appelé à rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Mais Christ l'est comme un fils à la tête de sa maison, selon Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. L'auteur nous dit, « Nous n'enlèverons rien à Moïse, nous lui rendrons l'honneur d'avoir été un grand serviteur de Dieu, mais Christ est encore plus grand. Le Fils est donc plus grand que Moïse. » Si nous continuons de cette manière, nous commencerons réellement à croire que nous avons ici quelque chose de supérieur, de meilleur que Moïse et meilleur que Aaron. Savons-nous pourquoi Dieu a réuni ces deux hommes? Ils étaient frères, mais ils étaient très différents. Et cependant, ils devaient vivre et travailler ensemble. Pourquoi cela? Et quelle était la différence? Eh bien, Moïse était le gouverneur. Il représentait le gouvernement et l'autorité. Ce qu'il donnait, c'était « tu feras et tu ne feras pas ». Moïse gouvernait et exerçait l'autorité en Israël. Mais Dieu est encore autre que cela. Aaron était l'homme d'amour, voyez, et de sympathie. Le sacerdoce signifie tout simplement cela, amour pour le pauvre pécheur et sympathie pour les hommes. Dieu donc met ces deux choses ensemble. Il ne serait pas possible à un seul homme d'être tout cela en lui seul. Il n'est pas possible d'avoir uniquement un autocrate. Il faut unir au gouvernement, à l'autorité, un cœur de compassion. Si ces deux choses sont ensemble, eh bien nous aurons un Israël très bon. Il nous est dit ici dans cette lettre que Jésus le Fils est supérieur à Moïse et même à Aaron, même à tous les deux. Il peut donc dire d'un côté, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. Le Père lui dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds, pour te servir de marchepied. » Hébreux, chapitre 1, verset 13. Il y a là deux images merveilleuses dans cette lettre. L'une dit de Jésus qu'il est couronné de gloire et d'honneur et qu'il s'est assis à la droite de la majesté d'en haut, jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus le marchepied de ses pieds. Toute autorité étant en son pouvoir, il est à la place du gouvernement. Et à côté de cela, nous avons cette autre image si belle, car nous n'avons pas un souverain grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et lui, Jésus, en lui, nous avons non seulement l'autorité et le gouvernement, mais nous avons encore l'amour et la sympathie. Et il est tellement supérieur à Moïse et à Aaron. Tant que son autorité est une autorité plus grande que celle de Moïse, et son gouvernement est plus grand que celui que Moïse a exercé, mais son amour et sa sympathie sont infiniment plus grands que ceux de Aaron. Sans sa sympathie et son amour et sa compassion, moi qui vous parle, j'étais mûr pour l'enfer, et cela pour l'éternité. C'est un miracle que Jésus-Christ m'a rattrapé et m'a délivré. Je crains que nous devions nous arrêter ici pour aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas terminé au sujet de la supériorité de Fils, du Fils Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas touché à son œuvre, l'œuvre par laquelle il a accompli la purification de nos péchés, mais nous pouvons le voir nous-mêmes. Peut-être avons-nous ici une petite fenêtre ouverte dans les cieux, et si nous avons la véritable fenêtre, nous pouvons voir beaucoup de choses, nous pouvons voir de grandes choses, et voir des choses lointaines. Mais ce que nous espérons de meilleur, c'est que ces pensées auront simplement ouvert cette fenêtre et que, regardant à travers elle, nous verrons une chose combien supérieur. Et Jésus-Christ a tout et à tous et combien supérieur. Et la dispensation dans laquelle nous sommes entrés maintenant. Et combien supérieures sont toutes les ressources qui sont à notre disposition, à tout ce qui est à jamais et qui a jamais existé autrefois. Amen. Amen. Chers amis, nous allons terminer par une courte prière. Veuillez, Seigneur, nous donner un sentiment vif et continuel de ta présence. Rappelle-nous que nous avons un Sauveur vivant qui, après être mort et ressuscité pour nous, est entré dans les cieux comme notre précurseur. Oh, que nous poursuivions constamment la course qui nous est proposé en regardant à lui le chef et le consommateur de la foi. Ô notre Sauveur, fortifie nos cœurs et nos mains pour ton service, afin que ton saint nom soit glorifié parmi nous, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement, et auquel nous rendons l'adoration à jamais. Amen. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est mon plus profond désir, car il vous aime. Il est vrai que je vous aime de tout mon cœur, mais jamais vous pourrez comparer même un amour spirituel, un amour agapé sincère à celui du Fils de Dieu. Il vous aime. Alléluia. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.